Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Là, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir. Bienvenue
à Cour d'honneur.
Saison 5, épisode 17.
L'info vient de tomber, mais le temps des boss ladies est révolu.
Allez hop, au placard et place aux sudistes de la radio.
Clara, Montpellieraine, affirmée.
Et le fameux Elias, sudiste, autoproclamé.
Une fine équipe pour vous épater, car pour la trame de ce soir, on a mis les bouchées doubles, donc vous ne devriez pas rester sur votre faim.
Avec toujours cette même question, qu'est-ce être étudiant à la Sorbonne?
On vous donne la réponse dans Cours d'honneur, votre magazine préféré d'infos et de culture, qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
En direct un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va parler de césure.
Moi, je sais que jamais, au grand jamais, ma mère aurait accepté que je passe une année de césure ou autre.
De couple libre ou les deux en même temps.
Bébé,
ouais.
Tu sais qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de potes qui sont en relation libre.
Ouais, mais c'est génial, force à eux.
Et puis apparemment, ça se passe hyper bien.
On n'y pense même pas.
Ça va, on peut en parler un peu quand même.
Ouais, si tu veux, on peut en discuter. C'est non.
Et de blocus.
C'est à cause des immigrés, si on n'a plus de travail.
Pourquoi sont-ils la cause du problème, selon vous?
Parce que ils sont là, toujours, à faire des trucs qui... Ouais, ça va, les journalistes, toujours contre nous.
Voici nos promesses avec une équipe réduite, mais toujours la meilleure. On dit bonsoir à Romain.
Bonsoir. Alors moi, j'ai prévu un débat micro-trottoir sur le couple libre, justement.
Waouh.
Bonsoir, Inya.
Bonsoir, alors nous on est en sous-effectif mais pas en sous-énergie ce soir.
Et non.
Je vous prépare pour l'édito 5 raisons de faire, pour faire une année de césure.
On a hâte d'entendre ça, ouais. On a aussi Swan qu'on a ressorti du placard.
Hello, et oui cette fois-ci je redonne le micro sans lâcher ma petite larme pour vous faire juste une chronique débrouille, et oui, et pas l'animation, mais ça va être super sympa et vous allez voir que je vous ai préparé franchement un bon plan, un très bon plan.
Trop hâte, on embrasse aussi Ellie, Jade et Mathilde qui se passent de nous mais dont on ne peut pas se passer.
Merci également à notre invité Thomas Antignac, responsable des services du pôle sciences des bibliothèques de Sorbonne Université, d'avoir répondu à notre invitation pour l'interview.
Et notre maman Thomas Chenel à la réalisation, comme toujours.
Ouais,
et...
moi aussi je prendrais bien des vacances, un de ces quatre.
Et coucou à toi aussi Clara.
Bien le bonsoir le fameux Elias. Avant tout, on tenait à remercier nos auditeurs car Cours d'honneur a dépassé les 18 000 écoutes.
On prend toujours autant de plaisir à vous proposer une émission un mercredi sur deux tout au long de l'année. On en a encore sous la pédale. Allez, que vous soyez aussi en train de faire une lettre de motivation,
de gérer une crise de couple,
ou simplement de vous la couler douce, on vous accueille parmi nous pour la prochaine heure.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour se mettre dans l'ambiance, zoom sur un sujet de notre temps, et sans en faire tout un flanc, avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment fusée.
Carte blanche.
Comme chaque année, une fois les galères de mon master derrière nous, certains étudiants sont amenés à reconsidérer leur projet académique. En effet, ne faudrait-il pas sortir des sentiers battus et dire stop en prenant une année de césure? Cette année est-elle vraiment un full stop? En 5 raisons, Lavinia nous explique pourquoi faire une année de césure.
Et oui, premièrement, une année de césure, c'est le moment parfait pour faire des stages. Beaucoup d'entreprises proposent des contrats à temps plein qui débordent sur l'année scolaire. Difficulté qui n'en est plus une quand vous êtes libéré des horaires de la fac. Et comme un de nos derniers invités, monsieur Eric Mention-Rigaud, nous le rappelait, faire des stages, c'est ce qu'il y a de plus formateur pour la jeunesse, car dans le milieu du travail, on fait du réseautage et on acquiert des connaissances pratiques impossibles à transmettre sur les bancs de la fac. Deuxièmement, une année de césure, c'est aussi le moment parfait pour voyager. Alors oui, vous me direz, pour ça, il y a l'Erasmus, c'est vrai. Mais si vous planifiez par exemple un plus long itinéraire ferroviaire à travers l'Europe, et pourquoi pas dans un autre continent, alors il faut prévoir plus grand en termes de temps consacré. Troisièmement, une année de césure, c'est l'occasion de s'engager dans une mission bénévole à l'étranger. Quand on regarde les offres de mission sur le site de France Volontaire, la majorité dépasse le seuil d'un an et ne sont pas envisageables pour une simple durée estivale. Quatrièmement, prendre une année de césure, c'est aussi choisir un moment de recul bénéfique. Beaucoup d'entre nous ont choisi leur trajectoire académique trop tôt sur Parcoursup, la tête pleine de rêves et d'a priori avec un cortex préfrontal pas encore consolidé. Faut du courage pour s'avouer qu'on a besoin de sortir du cadre d'apprentissage, prendre du temps pour soi et mieux réfléchir à quoi on désire se consacrer par la suite. Au passage, mention spéciale pour ma coloc qui m'a soufflé cet argument dans l'oreillette. Merci pour ton inspiration, Léa. Enfin, cinquième et dernier point, faire une année de césure, c'est plus facile à envisager lorsqu'on est étudiant qu'une fois catapulté dans le monde du travail. Alors pour ceux qui sont tentés, profitez-en tant que votre fac vous propose ce genre de dispositif. C'est le genre de décision qui donne l'impression de faire un grand pas dans le vide, mais quand ce temps est bien employé, cela ne peut que vous réorienter au mieux.
Merci Lavinia pour cette réflexion. Césure ou thèse directe, c'est vrai que je suis en plein dilemme.
Mais t'as l'été pour y penser.
Ouais, t'as raison.
Bon allez, en attendant, il est 20h05 sur RSU et 18h05 sur Radio Campus.
Mais attends, par contre, une césure, c'est chaud pour le couple.
Bon, c'est peut-être l'occasion de tester autre chose. En 2026, le couple libre, c'est ok.
Ça franchement, j'y crois moyen.
Bon après, il y a des hauts et des bas quoi.
Allez, tu sais quoi ? On lance le débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Le couple libre est un fantasme moderne ou une réalité ? Romain a demandé à des étudiants en couple et c'est pas si simple.
Ce qu'on entend par couple libre pour moi c'est ça, c'est qu'il y a une relation amoureuse, en tout cas émotionnelle forte. Donc on veut se permettre de pouvoir aller fréquenter d'autres partenaires. Dans les faits, je ne l'ai jamais pratiqué, donc je ne peux pas dire si ça provoquerait pas des affects, un peu, des ressentis un peu négatifs, mais j'ai l'impression de pouvoir le tolérer.
En théorie, je pense que ça peut ouvrir d'autres espaces de discussion au sein de ce que c'est que le couple. Après, en pratique, ça demande vraiment beaucoup de confiance mutuelle. Je ne me vois pas gérer émotionnellement la chose.
Dans les expériences personnelles autour de moi, mes amis et tout, ça a toujours été le signe d'un couple qui ne va pas bien du tout. Voir la fin annoncée du couple.
Tout est une question de communication en soi. Alors, si tu commences à être jaloux, etc., et que tu dis rien, et nanani, nanana, là tu crées des problèmes.
J'ai quand même un rapport à l'autre qui est privilégié, vu qu'un couple c'est quand même quelque chose d'intime. Et je pense qu'il y a un besoin quand même qu'on construise un truc à deux qui soit vraiment que tous les deux.
Et alors, autour de la table, qu'est-ce qu'on en pense du couple libre ? Est-ce que ça vous tente ? Est-ce que ça vous tente pas du tout ? Racontez-nous.
Est-ce que vous pourriez vous mettre en couple libre, tout simplement ?
Ah, il répond pas à la question. Bon, allez.
Je réponds à la question par une autre question. Romain, c'est pas du tout le concept.
Non, mais vas-y, je me lance. Alors, moi, je trouve que c'est un peu une antithèse, quoi. Enfin, un couple, c'est vrai que tu construis quelque chose, t'as une relation de. Vraiment de. Moi, quand on va dans une intimité comme ça et que, bah, du coup, j'apprends aussi à vivre avec la personne, bah, c'est difficile, en fait, d'accepter que l'un et l'autre, on aille voir ailleurs. Donc, je pense que c'est vraiment une question. De contexte, d'âge, de. Enfin, il y a plein de facteurs déterminants. Et là, tout de suite, moi, je n'envisage pas du tout ça.
Ouais. Je t'en prie. Non, Lavinia,
d'accord,
vas-y.
D'accord. Bon, bah, en fait, je vais aller dans la même direction que toi, Clara. Pour moi, couple libre, c'est une antithèse. C'est-à-dire que moi, quand j'imagine un couple, bah, c'est à deux, quoi. C'est la définition du couple. Et un couple libre, quand chacun va aller voir de son côté, alors pourquoi pas avoir deux célibataires qui se fréquentent de temps en temps ? Ok, friends with benefits, oui. Mais est-ce que de là, on peut parler de vrai couple ?
Après, il faut peut-être définir aussi, c'est quoi un couple libre ?
Oui, mais je pense que la définition, justement,
c'est
y en a
ça qui est problématique.
C'est peut-être un peu fou ce que c'est un couple libre. Romain, du coup, moi, qui a été demandé aux étudiants, qu'est-ce qu'un couple libre ?
Pour moi, un couple libre, c'est. Et ça a été défini au début d'ailleurs. Je tiens à préciser, je pense que la définition commune, ça serait deux personnes qui s'aiment, mais pour autant, qui, pour eux, le couple est une construction sociale, et à partir de ce moment-là, ils se permettent d'aller voir ailleurs, car ça ne les dérange pas. Et je pense, en vrai, pour l'instant, moi personnellement, au début, j'étais très fermé à cette idée-là, mais il y a un humoriste qui s'appelle Edgar Riff qui a fait un sketch dessus et qui a parlé pendant 3 heures au sujet de la fidélité, de ce que c'est le couple libre ou quoi, et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le sujet, et je pense qu'en vrai, peut-être pas maintenant, parce que je pense que niveau jalousie ou quoi, ça me saoulerait honnêtement. Je sais pas, 30, 40 ans, pourquoi pas ?
Oui, on est d'accord, il n'y a pas de question de fidélité, du coup, dans un couple libre. Parce que
ah si, il y a de la fidélité aux règles qu'on s'est imposées. Parce que vous êtes là à dire, oui, c'est des gens qui vont voir ailleurs, mais dans quel cadre est-ce que tu vas voir ailleurs ? Est-ce que tu te permets d'entretenir plusieurs relations en simultané ? Est-ce que tu te permets seulement d'avoir du sexe avec d'autres personnes? Est-ce que tu t'autorises à faire plusieurs fois du sexe avec une autre personne? C'est tout un tas de règles à inventer. Et dans ce cas-là, la fidélité, elle existe. C'est d'être fidèle aux règles que tu as édictées avec ton ou ta partenaire.
Mais c'est ça, il y a plein de formes de couple libre, en fait.
Non, en vrai, moi, je pense que dès le moment où tu as un carnet d'adresses pour tes partenaires, c'est plus vraiment un couple, excuse-moi.
Non, mais par exemple, tu es en couple depuis 3 ans avec ta dulcinée. Un soir, tu vas dans une soirée avec des amis, elle n'est pas là. Il y a une charmante demoiselle avec qui le courant passe bien. Et tu as envie, ce soir-là, tu as un peu bu, de prolonger, d'aller un peu plus loin, mais juste... voilà, une partie de jambes en l'air, il n'y aura pas de lendemain, vous n'avez pas sollicité le numéro l'un de l'autre, etc. Est-ce que c'est vraiment... Et tu informes éventuellement ta partenaire, ta régulière.
Après,
tu dis, hier
après
soir, j'ai couché avec une autre fille, voilà, qu'est-ce que... Et si c'est autorisé, hein, tu ne le fais pas...
Oui, bah, c'est ça,
parce que oui, sinon, évidemment.
Mais je veux dire, voilà, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être envisageable? Parce que c'est aussi une forme du couple libre en soi.
Non, mais c'est bien que ce soit envisageable, mais moi, en tout cas, personnellement, je ne l'envisagerais pas. Voilà.
Bon, pour Sartre et Simone de Beauvoir, ça a marché, mais après, quelles autres choses ils ont aussi fait?
C'est difficile en vrai.
Mais est-ce que ça veut pas dire que t'es pas 100% heureux dans ton couple si tu ressens de l'attirance pour quelqu'un d'autre?
Mais le bonheur passe-t-il par l'exclusivité?
Vous avez 4 heures.
Pas forcément, mais alors du moment en fait où on enlève l'idée d'exclusivité, pour moi on parle plus de couple en soi, on peut parler de
une relation
multiple.
Une sorte de connexion émotionnelle avec quelqu'un, ouais. Et que tu définis en couple avec la personne,
oui,
mais ouais. Quand même se laisser la liberté, pour le coup couple libre c'est vraiment ça, d'aller voir ailleurs de temps en temps, évidemment si c'est ok pour tout le monde, mais je pense que c'est surtout ça le principe du couple libre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans ton cœur et quelqu'un qui est dans ton cul.
Je pense pas, parce que franchement il y a des couples libres où la personne ressent aussi une connexion intellectuelle avec plusieurs personnes, et ça en vrai je suis d'accord avec ça, dans la vie je suis d'accord, et je pense que moi personnellement j'aurais plusieurs histoires mais pas en même temps, enfin, et en plus d'ailleurs ça me dérange degré. Même le nom de couple libre, moi ça me dérange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple ça enferme.
Après
il y a un mot que Romain a soulevé qui est intéressant, c'est la question de jalousie. Selon vous, qu'est-ce que la jalousie apporte de bénéfique à votre relation
en couple libre ou pas
en général? Qu'est-ce que la jalousie apporte de bénéfique à votre relation? Parce que moi, je suis parti de ce principe-là. La jalousie, c'est quelque chose de néfaste par essence même. Et dans ce cas-là, on peut s'en absoudre. Et à partir du moment où on renonce à toute forme de jalousie, arrive la possibilité d'un bonheur partagé avec d'autres partenaires.
Après, renoncer à toute forme de jalousie, c'est compliqué. Parce que,
On est Radio Sorbonne, hein, on est exigeant ici. On n'est pas là pour...
C'est pas forcément des choses qui contrôlent la jalousie. Mais après, je pense que la jalousie, certes, je ne trouve pas du tout que ce soit une bonne chose, mais ça peut montrer une sorte d'attachement quand même, si jamais...
N'y a-t-il pas de meilleure manière de montrer l'attachement?
Ah si. Non, je suis complètement de cet avis-là. Mais ça peut quand même montrer qu'on a envie d'avoir la personne que pour soi. Et donc, selon moi, s'il y a une vraie jalousie, il ne peut pas y avoir couple libre.
Oh là là, mais ok, déjà, il y a plusieurs formes de jalousie. D'un côté, on a la jalousie possessive, dans le sens où l'autre partenaire n'a pas le droit de porter une jupe trop courte parce que ça va aguicher les autres mecs dans la rue. Ok, ça, c'est pas du tout sain ni rien. Mm. Par contre, il y a aussi la jalousie qui est le signe d'une transgression des règles qu'on s'est posées dans une relation. Et là, ça peut parfois être justifié. Par exemple, imaginons qu'on s'est dit, d'accord, ok, tu peux, aller voir ailleurs, dans notre définition du couple libre. Mais ça va jamais se faire en ma présence, parce que voilà, je veux avoir en fait un mur, je veux avoir une limite, etc. Bon, d'accord, admettons ça. Et pendant une soirée, justement, on va aguicher une jeune belle fille, comme l'a donné Thomas en exemple. Imaginons que l'autre partenaire soit présent et assiste à la scène du flirt.
Bah oui, là, tu respectes pas les règles.
Tu ne respectes pas les règles, et l'autre est parfaitement en droit de se sentir jaloux et même plus.
Sauf si c'est autorisé.
Voilà, c'est ça. Sauf
oui,
si vous en avez parlé avant.
C'est justement l'exemple où l'autorisation n'est pas donnée. Et là, jalousie.
Oui, non, mais là, il n'y a pas de couple libre. Du coup, il y a trahison, il y a infidélité. Mm-hmm.
Et moi, je pense honnêtement que quand on se met en couple libre avec quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, et donc on connaît nos limites entre nous. Je pense que c'est bien peut-être d'en parler, de ça, de mettre des mots dessus, mais on peut aussi tout simplement aussi connaître nos limites, savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour pas blesser la personne en face, quoi.
Mais la jalousie, en plus, ça peut être à double tranchant. C'est une jalousie néfaste, comme tu disais, Lavinia, ou une jalousie aussi qui peut relancer quelque part le désir aussi. Mais c'est vrai qu'il y a autant de formes de couple libre et de versions de couple libre que de binômes possibles dans la nature. Mais c'est une belle possibilité, je trouve, quand même, de pouvoir créer quelque chose entre deux personnes et que ce soit pas exclusif, parce que dans la vie, oui, on peut ressentir de l'amour pour plusieurs personnes.
Mais je pensais pas que les vintenaires étaient si conservateurs sur la notion de couple. On va faire des
jugements sur nos prises de position.
Vraiment, vraiment. C'est pas un jugement, c'est un constat. Vous êtes plus conservateur que ma génération.
Alors,
on n'a plus de temps. Voilà. J'en parlerai après.
C'était un bon débat. En tout cas, il y en a une pour qui le couple libre s'est validé. Il s'agit de la chanteuse californienne Kehlani, qui affirme d'ailleurs dans son single After Hours, sorti en 2024, qu'il est temps de faire avancer les choses et de vivre sa liberté après des heures de travail. After Hours de Kehlani.
Il est 18h17 sur Radio Campus et 20h17 sur Radio Sorbonne.
Dis donc, ça a l'air de faire vivre des sensations intenses, le couple libre.
Presque autant que celles qu'on peut retrouver à l'espace sensoriel de Jussieu, figure-toi.
Oh là là, Elias, mais toujours fourré à Jussieu. Hein. Mais attends, mais est-ce que tu nous expliquerais pas cette nouvelle pépite ?
J'ai même invité la personne pour en parler tout de suite dans l'interview.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Les bibliothèques universitaires sont souvent associées au silence et à la pression académique. À Jussieu, un espace sensoriel a pourtant ouvert dans une bibliothèque pour permettre aux étudiants de faire une pause et de réguler leur stress. Pour nous en parler, nous recevons Thomas Antignac, bibliothécaire à Sorbonne Université, interviewé par le Farmulias.
Monsieur Antignac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable donc des services du pôle sciences des bibliothèques de Sorbonne Université et vous avez participé début 2026 à la mise en place d'un espace sensoriel situé sur le campus de Jussieu à la bibliothèque des L1 qui est d'ailleurs ouverte à tous les étudiants comme le dit pas son nom. En quelques mots, qu'est-ce qu'un espace sensoriel ? À quoi ça sert ?
Un espace sensoriel, c'est un endroit dans lequel on peut aller pour du repos, du répit ou de la stimulation. En fait, l'idée, c'est de développer, faire appel aux différents sens. Donc ici, c'est l'ouïe, le toucher, la vue, et de passer un moment de pause dans sa journée, en début de journée, en milieu de journée, en fin de journée, pour se recharger, se recentrer, passer un moment à soi.
Et concrètement, comment est-ce qu'on conçoit un espace sensoriel dans une bibliothèque déjà existante ? Quelles ont été les principales contraintes, les résistances liées à ça ?
C'est vrai que dans les bibliothèques, ça a été dit, c'est souvent une ambiance silencieuse. Il y a aussi beaucoup de salles de travail silencieuses ou en groupe, dans lesquelles les gens parlent beaucoup. Et puis la bibliothèque L1, c'est une bibliothèque où le niveau sonore est assez élevé. Pour ceux qui la connaissent, c'est une bibliothèque dans laquelle il y a souvent du bruit. Et c'est vrai que les bibliothèques ont quand même pas mal évolué ces dernières années. Et donc dans ce cadre-là, avoir créé un espace comme ça, ça semblait finalement assez logique, sachant que sur le campus, il n'y avait pas d'autres espaces comme ça de repos qui permettent d'avoir une expérience comme ça.
Est-ce qu'il a fallu convaincre que ce type d'espace avait toute sa place à l'université ? Si oui, avec quels arguments ?
Ça s'est passé assez naturellement, puisque l'an dernier, un axe fort des bibliothèques, c'était de travailler sur le bien-être des étudiantes et des étudiants. Et donc dans ce cadre-là, on s'est demandé quel projet on pouvait mener. On a répondu à un appel à projet CEVEC, qui nous a permis d'avoir des financements pour des actions comme la médiation animale, par exemple. Et donc cet espace sensoriel, et c'est vrai que ça semblait assez logique à faire, sachant qu'on travaille avec les autres services de l'université, comme par exemple le service de santé étudiante, avec qui on a beaucoup échangé pour mettre ce service en place, ou par exemple le service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap.
Nos bibliothèques traditionnelles, comme celle de la Sorbonne, la magnifique BIS, qui n'est pas ouverte aux étudiants en sciences, sont-elles sous-optimisées ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ces espaces-là. Est-ce qu'il faudrait ? Dans quelle mesure ? Est-ce que c'est important pour une bibliothèque ?
Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des contraintes aussi de saturation des bibliothèques. En Île-de-France, les bibliothèques universitaires sont très occupées. Il y a des périodes où il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les bibliothèques, et donc il faut faire des choix sur l'organisation des espaces. Alors c'est vrai que sur le campus Jussieu, par exemple, le campus Pierre et Marie Curie, on a beaucoup de salles de travail en groupe, et donc du coup, on s'est accordé la liberté de créer un espace comme ça, et donc du coup de condamner, de faire une salle de travail. Et à la BIS, je pense que les questionnements sont différents, mais par exemple, je parlais de médiation animale comme exemple, ils font aussi de la médiation animale, donc on voit qu'il y a ce chemin-là quand même qui est parcouru par l'ensemble des bibliothèques.
Donc cet espace qui a été en partie financé par la CEVEC, que Radio Sorbonne remercie d'ailleurs, est-ce un dispositif niche ? Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à devenir un standard dans les bibliothèques universitaires en général ?
J'espère, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr. Les espaces sensoriels, ça existe depuis les années 70, ça vient des Pays-Bas, on parle d'espace snuffelen, c'est une contraction, une concaténation des mots snuffelen pour sentir et doezelen se reposer, et ça vient du milieu médical. C'est à l'origine plutôt pour les personnes qui sont sur le spectre autistique, pour leur offrir un cadre comme ça de communication, de travail, de repos, de répit, etc. Et ça s'est développé ces dernières années. On en trouve, vous en avez peut-être vu déjà, dans les crèches, dans les EHPAD. C'est quelque chose qui se développe dans des écoles aussi. En bibliothèque universitaire, je crois qu'on est la première, mais j'espère qu'il y en aura d'autres aussi.
Et il y a d'autres de ces dispositifs qui sont proposés, je crois, au campus de Malesherbes et Clignancourt ?
Tout à fait. Il y a à Clignancourt un espace sensoriel qui existe déjà depuis quelques temps. Et puis, dans le cadre de ce même projet à la bibliothèque L1, il y a aussi des espaces sensoriels en cours d'installation à la bibliothèque Clignancourt et à la bibliothèque Malesherbes.
Est-ce qu'il faudrait donc revoir l'agencement de toutes les bibliothèques de Sorbonne Université ?
Les bibliothèques à Sorbonne Université, elles sont toujours en aménagement et en réaménagement. On essaie de changer des choses. Hein. Si je donne un autre exemple, la bibliothèque L1, l'an dernier, il y a une sorte de patio au milieu avec plein de végétation, des arbres, etc. Et du coup, on a coupé des arbres pour créer un jardin partagé dans la bibliothèque. Et donc ce jardin partagé, il est ouvert à tous les étudiants, toutes les étudiantes, et les personnes peuvent venir pour cultiver des patates, cueillir des fraises peut-être bientôt. Et donc je pense que dans ce cas-là, il y a des réaménagements, on en fait plein.
Et si vous aviez carte blanche, quel serait le prochain projet un peu inattendu que vous aimeriez voir apparaître dans les bibliothèques?
Alors, choisir une idée. Je pense que le fait d'avoir des animaux, on le voit souvent à Paris, les gens, soit ils ont, quand ils sont étudiants, étudiantes, soit ils, par exemple, ils viennent de loin et donc ils n'ont pas de contact régulier avec les animaux, de leurs animaux de compagnie par exemple, ou parce qu'ils vivent à Paris, on n'a pas la place d'avoir des animaux, on est en ville. Je pense qu'avoir des animaux à demeure dans les bibliothèques, qui sont les lieux de vie quand même très fréquentés, très connus, très fréquentés par les étudiants et les étudiantes, ça pourrait être une chouette idée.
Et est-ce que vous pensez que ce type de dispositif, donc les espaces sensoriels, peuvent changer le rapport des étudiants à la bibliothèque et voire à l'université en général ?
Oui, en tout cas, j'aimerais bien que ce soit le cas. Les bibliothèques sont quand même d'abord des lieux d'études et elles sont massivement utilisées pour ça, pour consulter la documentation, emprunter des documents et étudier. Mais c'est aussi autre chose. Les étudiants et les étudiantes, quand on fait des enquêtes pour savoir comment ça se passe, on se rend compte que les journées sont très longues et l'appropriation des lieux dans lesquels ils vivent presque, elle doit être importante. Et nous, notre objectif, c'est que les personnes soient plus à l'aise dans ces lieux. Donc oui.
Et les étudiants bossent dans des bibliothèques quand même depuis des siècles. Est-ce que le fait de voir ces espaces là mis en place, est-ce que ça voudrait dire que les étudiants travaillent mal en bibliothèque ?
Non, je crois pas. Non, je crois pas que les étudiants et les étudiantes travaillent mal. Je pense qu'ils travaillent très bien. Après, le rythme quand même, aujourd'hui, le métier d'étudiant, il est quand même très intense. C'est des très longues journées, beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Et donc, nous, on a quand même l'idée de se dire comment permettre aux gens de faire des pauses en fait dans ces journées, parce qu'on ne tient pas une journée comme ça sans faire de pause. Et faire des pauses, ça prend des formes très différentes. Ça peut être lire un manga, faire un puzzle, mais c'est aussi, par exemple, aller dans l'espace sensoriel 30 minutes.
En tant que bibliothécaire, comment voyez-vous évoluer votre rôle, plutôt gestionnaire d'ouvrage ou acteur du bien-être, du lien social?
Je dirais les deux. Alors moi, sur mon poste, hein, je gère pas d'ouvrage. Mais j'ai des collègues, on est nombreux à travailler dans les bibliothèques de mon université, qui s'en occupent, donc je pense que c'est les deux et que c'est pas du tout incompatible.
Et est-ce que la proposition d'espace, de ces espaces sensoriels, vient disrupter l'écosystème des bibliothèques en général ?
Non, je pense que ça va dans le sens de ce qu'on propose. Par exemple, il y a 3 ans, on a mis en place une bibliothèque d'objets. Vous savez, les gens peuvent venir emprunter des objets du quotidien pour un usage ponctuel, un appareil raclette par exemple, ou des matériels de bricolage. Donc on propose ces services-là. Et je pense que voilà, avoir un espace sensoriel par exemple, c'est aussi dans la continuité, c'est une évolution des métiers et de ce qu'est être étudiant aujourd'hui à Sorbonne Université.
Ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois que l'espace a été mis en place. Quel type de retour étudiant recevez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement marqué?
Oui, on essaye de faire des petites enquêtes pour toutes les personnes qui utilisent l'espace sensoriel, puisque ça fait effectivement un mois qu'on l'a ouvert et donc on est encore en phase de rodage. Et les retours sont très positifs. 95% des personnes disent qu'elles se sentent relaxées ou déstressées en sortant de l'espace. Et j'ai beaucoup aimé une étudiante qui disait que ça avait quand même un effet plus bénéfique que de boire un Red Bull ou un café dans sa journée. Et je trouve que ça résume tout, en fait, cet aspect de bien-être où on va vraiment faire quelque chose qui a du sens et qui évite d'utiliser une boisson énergisante.
Et est-ce qu'il y a d'autres projets dans la continuité de ces espaces sensoriels qui ont été mis en place qui permettraient aux étudiants de prendre un moment pour eux sur le campus ?
Sur le campus, je saurais pas dire malheureusement. C'est vrai que nous, on réfléchit là, les étudiants et les étudiantes, souvent, ils utilisent les assises, les fauteuils, les banquettes pour dormir. Et c'est vrai que quand on est fatigué, on a besoin de dormir. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait accepté, mais on réfléchit à avoir des meilleures assises, en fait, de se dire mais comment faire pour que les gens soient plus à l'aise. Par exemple, à la faculté de santé, dans la bibliothèque, il y a des cocons de sieste, donc une sorte de grand transat très confortable qu'on peut refermer, dans lequel on est tranquille pendant quelques minutes. Et donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut développer.
Et pour l'université, ça coûte combien ? Est-ce que c'est un gros projet d'un point de vue financier ?
Alors l'espace sensoriel, il nous a coûté environ 25 000 euros pour mettre en place. Ça coûte de l'argent effectivement. J'ai pas décrit l'espace à quoi il ressemblait. C'est vrai qu'à la radio c'est pas simple de se rendre compte, mais si je peux lister rapidement ce qu'il y a. Quand on rentre dans la salle, il y a une sorte de grosse moquette confortable au sol et sur laquelle, donc c'est pour ça qu'il faut enlever ses chaussures quand on rentre dans la salle pour avoir une expérience complète, on va dire. Il y a aussi les murs, il y a un travail acoustique dans les murs pour pouvoir diffuser de la musique et pas être parasité par le bruit du reste de la bibliothèque. Et puis il y a plein de jeux lumineux avec un ciel étoilé, de la fibre optique, une colonne à bulles, ce genre de choses. Qui font que oui, tout ce matériel-là, en fait, il a un coût. Et donc, c'est pour ça que ça a coûté de l'argent. Ouais.
Et cet espace, j'ai eu l'occasion de m'y rendre, du coup. C'est dans une salle qui, à la base, était une salle de travail. Et ces salles de travail sont connues pour qu'il y ait quand même un problème d'odeur après le passage des étudiants. Sachant que l'espace sera ouvert tout l'après-midi, comment est-ce qu'on fait pour ne pas arriver dans une salle qui sent mauvais?
Oui, c'est une très bonne remarque, parce qu'effectivement, les salles de travail, parfois, ont un défaut d'aération. Donc, pour cette raison, on essaie souvent de laisser la porte ouverte pour aérer. Et donc là, l'espace sensoriel, donc depuis un mois, on le met à disposition de 13h à 18h30, ce qui fait que le reste du temps, la porte est ouverte. Et c'est vrai qu'on se pose plein de questions sur cette question de l'aération, en fait, tout simplement, de la ventilation, que ce ne soit pas désagréable pour la personne qui vient après. Sachant que dans un premier temps, donc c'est une salle qui, avant, en tant qu'espace de travail, était pour 6 personnes. Et là, maintenant, elle est actuellement pour une personne. Dans quelque temps, on espère, une fois qu'on aura passé le rodage, passer à 3 personnes. Mais du coup, ça fait moins de monde quand même, si ça peut vous rassurer.
Et une dernière question qu'on pose à tous nos invités sur Cours d'honneur. Que représente la Sorbonne pour vous ?
La Sorbonne, c'est un objet qui est difficile à appréhender parce que c'est quand même très divers. Déjà, des Sorbonnes, il y en a plein. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais très étonné en tant que personnel. J'ai trouvé très difficile de s'y retrouver parce que il y a quand même beaucoup, beaucoup de services qui vont dans tous les sens. Et je me suis rapidement demandé, mais comment les étudiantes, et vous pourriez peut-être me répondre, font pour s'y retrouver, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple.
Eh ben, on s'y retrouve pas tout le temps non plus.
Merci à toi, Elias, pour cette interview. Et surtout, merci à vous, Thomas Antignac. Il est 18h31 sur Radio Campus et 20h31 sur Radio Sorbonne.
Et après s'être relaxé dans l'espace sensoriel de Jussieu, on part de l'autre côté de la rue des Écoles à la Sorbonne-Mer qui s'est retrouvée bloquée mardi dernier.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau et là, c'est le drame.
Fait marquant de la semaine dernière, le blocus de la Sorbonne qui a empêché pas mal d'étudiants d'aller en cours, qui ne s'en plaignent pas d'ailleurs, et qui a aussi empêché la super équipe de La Passerelle, qu'on embrasse, d'aller enregistrer leurs émissions. Ce blocus est une initiative du collectif Palestine de Sorbonne Université. Elias s'est glissé entre les manifestants pour vous y faire voir plus clair.
Mardi 14 avril dernier, vers 12h30, le comité Palestine de Sorbonne Université a investi pendant plusieurs heures la cour d'honneur. Une action menée simultanément à la Sorbonne, Sciences Po Paris et Centrale Supélec. Ils revendiquent la rupture des partenariats avec les universités et entreprises complices de la politique génocidaire d'Israël, ainsi que le retrait total et immédiat de la proposition de la loi Yadan. Gwendoline, membre du comité, était sur les lieux.
On a occupé la cour d'honneur de la Sorbonne. On a fait une action coordonnée avec les camarades de Sciences Po qui ont aussi occupé leur école.
Le comité manifeste contre la proposition de loi déposée en novembre 2021 par Caroline Yadan, députée apparentée au groupe Ensemble pour la République.
Des revendications qui sont simples, la soumission au vote de la loi Yadan qui constitue une intensification visée de la répression du mouvement pro-palestinien qui nous concerne en tant qu'étudiants.
Cette proposition de loi vise, je cite, à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Selon les détracteurs de ce texte, cette loi permettrait l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, ce qui pourrait interdire la critique de l'État d'Israël sous peine de poursuites judiciaires pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La gauche et plusieurs ONG comme la Ligue des droits de l'homme ou encore Reporters sans frontières déclarent cette proposition anticonstitutionnelle et s'inquiètent d'une atteinte au débat politique, comme l'affirme Léa Balage El-Makiri, députée écologiste de Paris.
Il ne vise pas du tout la question de la lutte contre l'antisémitisme. En réalité, cette proposition de loi est un outil dans la main de l'extrême droite pour donner un office au juge qui n'est pas le sien, c'est-à-dire d'arbitrer selon la police de la pensée.
Le comité Palestine s'insurge également contre certains partenariats de Sorbonne Université avec des universités israéliennes et des entreprises d'armement.
L'arrêt des partenariats de nos universités avec des institutions complices comme des entreprises d'armement, Thales, Safran, et pour les universités israéliennes qui sont complices du génocide et de la colonisation en Palestine, qui sont l'université de Bar-Ilan et de Tel Aviv.
L'UEJF, Union des étudiants juifs de France, était également présente devant la Sorbonne. Après l'annonce du blocus du campus historique, certains membres comme Nathan, trésorier de l'UEJF, se sont déplacés place de la Sorbonne afin de dialoguer autour de la loi Yadan.
Nous, on est venus aujourd'hui donc, pour dialoguer avec les gens dans la rue, justement parce que en fait, c'est une initiative qu'on tient aujourd'hui, donc, qui est la table du dialogue, une initiative qui a été créée après le 7 octobre, justement parce qu'on a vu que les gens, ils n'arrivaient plus à se parler dans les facs, et justement, c'était pour recréer cette optique de dialogue où les gens arrivent à échanger entre eux, parce qu'on est convaincu que tant que les gens peuvent dialoguer entre eux, échanger entre eux, se parler, c'est justement ça qui va favoriser le vivre ensemble. On a remarqué que dans ce blocus, dans cette manifestation qui avait lieu aujourd'hui, les étudiants étaient mobilisés contre cette loi. Et en fait, on est venu quand même rappeler aux étudiants, on entend des appels à la destruction de l'État d'Israël, on vient aussi rappeler qu'en fait, cette loi vient aussi pénaliser aussi tous les appels à la destruction de la Palestine, État qui a été reconnu par la France en septembre.
Le blocus aura duré environ 6 heures avant que la police ne vienne déloger l'ensemble des manifestants de la Cour d'honneur. Leur voix s'est cependant faite entendre jusqu'à l'Assemblée nationale. En effet, deux jours plus tard, la proposition de loi a été retirée par son autrice. Une nouvelle devrait voir le jour en juin prochain.
Et merci Elias pour ce fameux reportage sur ceux qui manifestent dans la rue et parfois même dans la cour d'honneur.
Et tu sais quoi, d'autres ont choisi la scène pour se révolter, comme le groupe Bagarre, du nom de leur combat qui mène en musique entre balade mélancolique et banger électronique. On s'évade de la Sorbonne pour leur rave à Versailles tout de suite sur Cour d'honneur. Il est 18h38 sur Radio Campus et 20h38 sur Radio Sorbonne. Vous venez d'écouter Rave à Versailles du groupe Bagarre, qui malheureusement sont séparés en 2025. peut-être s'essaye-t-il au couple libre ?
Et d'ailleurs, en parlant de fight, ça devient de plus en plus tendu pour avoir une place en terrasse avec l'arrivée de l'été. Encore aujourd'hui au resto, j'en avais qui essayaient de gruger la file. Ah là là, puis ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Si certains ont une carte de réduction, ça motive encore plus à siroter un petit verre.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, top table !
Aujourd'hui, être étudiant à Paris, c'est choisir entre sortir ou manger. Alors forcément, ça pose une question très simple. Est-ce qu'on est condamné à vivre enfermé chez nous dès que notre compte passe sous les 20 euros ? Avec les beaux jours qui arrivent, rester chez soi devient de moins en moins une option. Mais Swan a peut-être la solution pour vous dans la chronique des brouilles.
Eh oui Elias, en ce moment il fait chaud, il fait beau, on n'a aucune envie de rester dans sa petite cuisine sans fenêtre, sans four, sans aération, sans lave-vaisselle pour cuisiner un repas dont on devra ensuite laver à la main tous les ustensiles. Mais qui dit petite cuisine dit petit appart, dit petit budget. Donc qui peut se payer un resto en bord de Seine pour décompresser ? Qui peut se dire « Oh, j'ai la flemme de faire manger, donc je vais payer quelqu'un pour le faire, même si j'ai pas de quoi me payer des pommes de terre ?» Eh bien, peut-être que j'ai la solution pour vous. Déjà, premier conseil, si vous savez pas cuisiner, bah apprenez. Deuxième conseil, si vous voulez vous payer un resto pas trop cher, mais pas trop dégueu, il existe la carte Freeze, qui est pas trop mal. C'est une carte avec accès à des réductions illimitées dans plus de 300 restos, des bars aussi. Et si vous voulez éliminer les repas, même dans les salles de sport et autres activités. Donc en consommant chez leur partenaire, vous pouvez économiser 500 à 1000 euros par an. En gros, solde toute l'année, quoi, pas mal, hein. Elle est dispo pour tout le monde en dessous de 30 ans, donc vous avez un sacré avantage tant que vous n'êtes pas un dinosaure. Et que vous habitez à Paris. Et oui, parce que la province n'a pas le droit à de telles réductions. Sorry. Bon, comment ça marche ? Vous pouvez vous rendre sur le site carte-freeze.com et cliquer sur « Obtenir ma carte ». Là, vous pourrez choisir entre une carte valide jusqu'en août 2026 à 10 euros ou une autre jusqu'en août 2027 à 35 euros. Si vous êtes boursier, il vous suffit de télécharger votre attestation de bourse et vous gagnez 7,50 euros. C'est énorme, magnifique. Petit bémol par contre, parce qu'on est en France, et oui, et on paye normalement bien les gens, on paye donc la livraison. La carte vous coûtera au total 4,54 si vous êtes boursier et sinon 12,54. Bon, si on économise environ 500 euros dans l'année, c'est pas trop déconnant non plus. Un peu plus tôt, je vous ai parlé de leurs partenaires chez qui vous pouvez consommer. Donc, qui sont-ils ? Eh bien, ceux chez qui vous consommez d'habitude. C'est-à-dire Burger King, McDo, Subway ou Tacos, mais aussi dans plein de restos branchés et un peu moins fast-food, du coup. Ainsi que dans les bars dans les quartiers les plus cools de Paris, en fait. Et même à Disneyland. Vraiment dingue, j'ai vu des prix dingues. Pour emmener d'ailleurs vos cousins ou vous-même. Lorsque vous voudrez utiliser cette carte, rien de plus simple. Vous la rangez dans votre portefeuille à côté de votre carte bancaire, puis au moment de l'achat, vous la présenterez au commerçant. Et avant de payer, évidemment, même au prix complet. Souvent avec 10%, 20%, 30%, même 40% de réduction. Et pour un paiement en ligne, vous recevez un code lors de la commande de la carte que vous pourrez utiliser. Voilà, comment se régaler en cette période de partiel et donc manque de temps et donc manque d'argent.
Et merci Swan pour cette chronique sur la carte Freeze. Thomas voulait réagir peut-être ?
Ah ouais, super, on peut aller tout donner notre argent aux Américains et aux fast-food, bah génial.
Bah moi je crois que je vais en avoir besoin pour oublier le Goumin Pro Max dans lequel je suis depuis peu.
Oh, allez Lilia, ça va passer le chagrin d'amour. Dis-toi que beaucoup sont en galère de pétrole, donc de gaz, d'électricité et de tous les produits dérivés à cause de la guerre au Moyen-Orient. La prochaine carte de réduction à faire, c'est pour passer le détroit d'Hormuz en fait. Et ça tombe bien, j'en parle dans la chronique pavée.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui veulent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas ?
Ouvert, fermé, puis rouvert vendredi dernier, le détroit d'Hormuz, artère vitale du commerce pétrolier, concentre depuis presque deux mois les tensions de la guerre au Moyen-Orient. En conséquence, les courbes des prix du gaz et l'électricité font yo-yo, de quoi remettre sur la table l'urgente régulation de nos consommations. Heureusement qu'on sait les calculer, les dépenses énergétiques, c'est égal au temps, fois la tension, fois le courant. Un grand merci à ma prof de physique de seconde, Madame Jolie. D'ailleurs, le courant électrique est tellement slay qu'en hommage à ses découvertes fut rendu à la Sorbonne.
Le 25 novembre 1921, l'amphithéâtre de la Sorbonne n'était pas assez grand pour accueillir tout le public venu célébrer le centenaire des innovations d'André-Marie Ampère. Les gradins et l'hémicycle foisonnaient d'ingénieurs, de délégués de grandes écoles comme des polytechniciens.
J'ai dit silence dans la salle, bordel !
À 3h, la Marseillaise résonne. Puis le président de la République, Mitterrand, apparaît à la légendaire porte de droite et va s'installer dans les premiers rangs. Comme ça, il n'en perd pas une miette de la cérémonie d'Ampère. En perdre, enfin bref, laissez tomber. Le voici alors aux côtés d'autres notables des champs universitaires et politiques, parmi lesquels on retrouve Dior. Flash, light, light. C'est vrai que cette cérémonie est plutôt un défilé de ces personnalités qui, par leur hommage, font entendre une certaine vision du monde. Dès la première prise de parole, par exemple, le président du comité organisateur de l'événement, Daniel Berthelot, présente le Lyonnais Ampère comme, je cite, « l'un des plus purs, des plus glorieux enfants de notre France immortelle ». Son génie est comparé à ses hauteurs montagneuses dont chaque détour du chemin, on découvre un aspect nouveau.
Il fait vraiment froid, il pleut, mais il pleut blanc. Je comprends pas, maman.
Il faut dire qu'Ampère s'est formé tout seul, tel un pur produit de l'éducation à la Jean-Jacques Rousseau, dont son père était un proche ami. C'est d'ailleurs de la bibliothèque paternelle qui puise ses connaissances, notamment avec l'histoire naturelle de Buffon, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, avant de se plonger dans les mathématiques. Ainsi, à 15 ans, il soutient un mémoire sur la quadrature du cercle à l'Académie des sciences et belles-lettres de Lyon. Berthelot souligne aussi que c'est par l'échange, notamment avec ses amis lyonnais, partisans de la nature-philosophie, qu'Ampère travailla ses idées. L'orateur relate par exemple l'explication du système monde qu'Ampère fit à ses amis pendant 13 heures, oui, le temps d'un vol Paris-Tokyo.
Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B.
Puis c'est au tour du recteur de l'université, monsieur Appel, de répondre à l'appel, de louer un grand mathématicien, puisque Ampère avait en effet la chaire d'analyse mathématique à l'école polytechnique. La parole est ensuite au ministre et représentant d'ingénieurs, comme Paul Bouchereau, président de l'Union des syndicats d'ingénieurs français, qui dépeint la palette de compétences du savant, à la fois en géométrie, physique et philosophie qu'il enseignait à la faculté des lettres de Paris. Avide de savoir, il considérait les mathématiques comme une branche de la philosophie et un moyen de formuler la physique moderne. Mais la postérité d'Ampère tient surtout à ses travaux en électromagnétisme. En 1821, il conçut en effet le principe de l'électrodynamique et du télégraphe. Double accouchement. Bam. Bon, on savait déjà depuis 5 siècles que l'aiguille aimantée, elle s'orientait vers le nord, mais c'est Ampère qui révéla comment la Terre agit-elle un aimant sur les courants électriques que deux fils parallèles parcourus par un courant électrique s'attirent lorsque ce courant les traverse dans le même sens et au contraire se repousse dans le cas contraire.
J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi c'est...
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
De quoi se griller le cerveau avec cette loi d'enfer, d'Ampère. Ah, mais attendez, avec 34 fils conducteurs, vous en prenez 24 pour les lettres de l'alphabet, 9 pour les chiffres et 1 pour le zéro. Et en envoyant un courant par une pile voltaïque, on obtient un...
Oui, Frédéric, je ne sais pas. Les autres alors, les autres, vite, on en profite.
Moi non plus. Là, ça fait beaucoup quand même.
Un télégraphe électrique, oui, bravo. Et les réalisations d'Ampère ont ainsi fait émerger beaucoup d'industries à l'époque, source de centaines de milliers d'emplois et de milliards de capitaux. Et comble du mérite, l'illustre physicien n'avait pas de laboratoire.
Allô ? Non mais allô quoi ?
Ouais, abusé. Celui qualifié de créateur d'humanité avait réalisé ses découvertes, rue Cardinal Lemoine, dans sa modeste chambre, sur une modeste table confectionnée par ses soins. Une profonde émotion s'empara alors de l'assistance, lorsqu'au milieu du riche décor de la Sorbonne, Daniel Berthelot pointa du doigt ce meuble rudimentaire possédé alors par le Collège de France. Un grand silence se fit et la démonstration suscita la réflexion. Tant de richesses née de tant de misère matérielle, le petit Parisien y voit hélas l'image actuelle de la science française, intuitive, créatrice, oublieuse de son propre bien pour ne penser qu'à celui du genre humain. Un manque de ressources plus du tout d'actualité, hein, grâce à la considération que porte Macron à nos revendications. Bref, notre président n'a pas relevé le niveau et celui de l'époque, lui, leva la séance de cette belle cérémonie. Heureux qu'Ampère, auparavant peu connu du grand public, voit ainsi son nom répété dans la France entière. En tout cas, l'événement mit sur pause les intenses réflexions de la conférence de l'électricité, puisque la cinquantaine de ses délégués insistèrent pour assister à cette cérémonie et au dîner qui suivit.
Le repas gastronomique français, c'est presque de la haute couture. Un rituel qui, dans le pays aux 300 fromages, survit à travers les générations. De la mise en bouche au digestif, les Français aiment se faire plaisir.
Bref, assez de gourmandise, cette célébration des découvertes d'Ampère est donc l'occasion de rendre hommage à la passion de la recherche, au goût de la transmission. Et puis ce parcours devait rappeler l'importance cruciale des livres et de la discussion pour que le dévouement scientifique et l'humanité résistent à la désinformation et aux pratiques totalitaires de nos crises contemporaines.
Merci Clara pour cette pépite aussi électrique qu'historique. Dans un instant, on va parler d'une ancienne Sorbonnarde qui oscille entre Paris et la Guyane. Mais tout de suite, on s'envole à Miami en première classe. Maybach Music dans les oreilles. On écoute Maybach Music de Rick Ross et Jay-Z sur cours de main. Got the baddest women in the world for me to feed
on. Double deck yacht, dock boss, blow his weed up. Revenue incredible, it put me on a pedestal. Colombia to Mexico, I figure was a better route. Look at me, a model now. Models in them bottles, round the blood, holler, ballin'. But the boys in blue, they shot him down. Gang affiliated, colors, prosecutors painted. Cause the niggas I employ, name synonymous for mayhem. Instrumentals that are mental, Maybach countermental. 400 off the lot, on the block is monumental. Some things your money can't buy, like heaven in the sky, even a better ride. In the rear, so many instruments I hear, tucked behind curtain, no sign of fear. I'm higher than a Lear, this Maybach music, designer shit I wear. Midcoast lose it, close your eyes and inhale the smoke. This Maybach music, the realest shit I wrote, nigga. My ounce, take a tote, for this Maybach music, the realest shit I wrote. Bounce.
Maybach, white seats, black piping. Remind me of Paul McCartney and Mike fighting. You know, the girl is mine, life's a bitch, so the whole world is mine. The six deuce long, the curtains are drawn perfectly like a Picasso, Rembrandt's and Rocco. I'm a major player, 40-40s in Vegas at the Palazzo. They said it was not so. Certain things your money can't buy, like being this fly, to then I'm just gonna ride. I'm like G-Rap with better transportation. On the road to the riches, reach my final destination. In the lair, closer to a lair, say a prayer. Hope I get the sail when I disappear from here, baby, yeah. When I don't see the ending through these millionaire lenses, just the two M's on the emblem. The partition roof translucent, the humidor. Refrigerators where Ace of Spades are to a store. True story, my closet is like two stories. Straight to the happy ending, cause I don't do stories. Sean Corey, real rap. The Maybach is bananas, peel back. You feel that?
Il est 18h50 sur Radio Campus et 20h50 sur Radio Sorbonne. Vous venez d'écouter Maybach Music de Rick Ross en featuring avec Jay-Z. Bon allez, à ces questions de couple, sinon Swan va nous faire une syncope, mais vous n'entendrez pas puisqu'on l'a mise en mute. Je rigole Swan, je t'aime.
Et malheureusement, pas de Sorbonne in Love ce soir, au plus grand désespoir de Swan, mais ne vous inquiétez pas. Parce que des personnalités inspirantes sont passées par la Sorbonne et donc par notre cher cours d'honneur qui en est l'entrée.
D'ailleurs, on passe souvent trop vite en fait, sans lui accorder l'importance qu'elle mérite. Alors pour une fois, prenons le temps de l'admirer à travers la carte postale de cours d'honneur.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Ce soir, on vous propose une carte postale qui coule de source, l'emblématique cours des grands. Ceux du passé, du présent et du futur, celles qui représentent l'honneur et notre émission. Élie et Mathilde vous emmènent dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle carte postale. On se retrouve dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Allons dans la cour d'honneur, hein ?
Oui.
Vous en priez.
On commence par l'entrée, rue Victor Cousin. On est accueilli par trois grandes arches, avec un sol qui est tout en pavé, entouré de quatre très 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 grands murs d'à peu près 4 étages, mur d'époque du 7e siècle, construit par le cardinal Richelieu, qui est d'ailleurs enterré au fond de la chapelle de la Sorbonne, qui est protégé, un peu comme par deux garants, par Louis Pasteur et Victor Hugo. Donc au fond du mur, tout en haut, on peut voir une horloge solaire, toute dorée. On voit deux anges en bas et un homme qui a une couronne de soleil en train de tirer un chariot de chevaux. Au fond de la cour, il y a 7 grandes arches avec au fond des tableaux qui font tout le mur, des bancs où les étudiants peuvent s'installer. À l'entrée de la cour, on peut voir un petit écriteau. Monsieur Loubet étant président de la République française, Monsieur Le Guy, ministre de l'Instruction publique, Gréard de l'Académie, président du Conseil de l'Université des Sèvres, préfet de la Seine, dossier président et conseil municipal, les travaux de la nouvelle Sorbonne ont été terminés. La cour d'honneur, c'est la cour principale de la Sorbonne. Tous les étudiants peuvent se réunir à tout moment de la journée. La majorité des étudiants y rentrent d'ailleurs pour entrer à la faculté. C'est une cour qui est très ensoleillée. Il y a beaucoup d'étudiants qui se posent au sol pour profiter du soleil entre les cours. C'est également une des cours qui est emblématique de la Sorbonne. Celle qui est la plus connue, je pense, notamment grâce à sa chapelle, qui n'est pas accessible au public. C'était un plaisir de vous avoir, à la prochaine. En tout cas, moi je dois filer à l'amphi Richelieu qui est juste à côté, donc c'est pratique. Bisous, ciao.
Et merci à Ellie et Mathilde de nous avoir fait découvrir un lieu qui m'a sincèrement fait rêver avant et après y être venu.
Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode.
On se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude.
Sauf que là, ce sera la veille de mon anniv. Alors préparez vos meilleurs déclats, la team.
Ah, la pression. Et vous, d'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram.
Sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
On remercie la direction des affaires culturelles, sans qui notre émission ne pourrait pas avoir lieu.
Merci également à Radio Campus Paris pour le partenariat, chez qui vous pourrez également nous retrouver samedi prochain à 18h.
93.9 FM, restez bien branchés.
Et on peut aussi remercier toute l'équipe. Merci à toi, Romain.
Merci à vous, c'était une super émission et passons une bonne soirée.
Et merci à Lavinia aussi.
Ah, quel suspense, ça allait tomber sur qui là? C'est un plaisir d'écouter et vous faites un super couple d'animateurs.
Couple libre.
Bon, on merci. En est là, merci. Réellement.
Et avant qu'elle retourne au placard, merci à Swan.
Bah ouais, au revoir, on se retrouve. La prochaine fois que je serai en animation, mais aussi, il me semble, oulala, dans 2 autres chroniques. Je crois que je vais refaire la débrouille à la carte postale, ça va être génial. Donc bye bye, bonne semaine à tout le monde, bonnes vacances et merci à Elias et Clara pour l'animation.
Bon, elle a pas l'air si terrifiée.
Ouais, je crois que le débat sur le couple libre, ça a terminé, Swan. Merci à Ellie et Mathilde que l'on embrasse.
Merci à notre maman, Thomas Chenel, toujours fidèle au poste.
Ouais, mais moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, vous êtes vachement conservateur sur le couple, que vous rêvez d'avoir des réductions chez McDo et autres fast-food. En fait, c'est vous les boomers originels.
Peut-être bien. Hein.
Attends, on continue le débat après. On remercie notre invité, Thomas Antignac, responsable des services du pôle sciences des bibliothèques de Sorbonne Université.
Enfin, on remercie tous nos auditeurs. Cours d'honneur a atteint les 18 000 écoutes. Merci pour votre fidélité. On vous prépare du lourd pour la suite.
On se retrouve samedi 18h sur Radio Campus.
Et dans 2 semaines sur RSU.
D'ici là, soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous kiffe. Bisous. Bisous. Bye.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
Rentre tous les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.